Chapitre 32. Tandis que la magie du juge suprême se refermait sur elle comme un poing, Nietzsche tenta de résister, mais son corps refusa de bouger et son esprit fonctionna au ralenti comme si sa matière grise se figeait. Presque incapable de penser, elle était piégée. Ayant senti la puissance de son adversaire, le sorcier fou avait utilisé un sort qu'elle ne connaissait pas et qui semblait impossible à parer. Lentement, sa chair se transformait en pierre et il n'y avait rien à faire. Presque aveugle, Nietzsche distinguait quand même encore une de ses mains, qui prenait peu à peu la couleur caractéristique du marbre. Ses poumons subissant une incroyable pression, elle aurait juré que ses os pesaient des tonnes. Ses yeux aussi se pétrifiaient, devenant durs et froids. Avant qu'il ne voie plus rien du tout, elle aperçut le jeune Bannon avec ses cheveux roux et son teint pâle. D'habitude, l'incarnation de l'innocence et de la joie de vivre, comme si la réalité ne l'affectait pas, une naïveté qui tapait sur les nerfs de Nietzsche. Il exprimait un désespoir sans fond. Avant que ses oreilles cessent à jamais d'entendre, Nietzsche crut capter le murmure qui sortit des lèvres déjà durcies et blêmes de son ami. Un seul mot. « Chaton !» Puis, il ne resta plus de Bannon Farmer qu'une statue au visage figé sur une expression d'horreur et de honte. Dans sa tête, Nietzsche vit défiler les images cauchemardesques de ses crimes passés. Des souvenirs incroyablement précis, comme s'ils étaient eux aussi pris dans de la pierre. Allait-elle passer une éternité à revivre ces abominations ? Traumatisé par sa rencontre réelle ou imaginaire avec l'armée fantôme, Nathan sortit de la tour. Seul et nerveux, il s'enfonça dans la forêt, franchement sinistre, à la tombée de la nuit. Son détour n'aurait pas dû lui prendre si longtemps, mais il ne regrettait rien. Une expérience précieuse sur le plan historique, pour le moins. Au cours des siècles, cette région de l'Ancien Monde avait vu couler des torrents de sang. Après la séparation d'avec le Nouveau Monde, une kyrielle d'empereurs et de seigneurs de la guerre s'en était donnée à cœur joie. Lire un traité d'histoire était une chose, assister aux événements n'avait rien à voir. Dans l'obscurité, le sorcier redoutait de ne pas retrouver la piste que Nietzsche et Bannon avaient suivie. Et s'il la dépassait, que de temps perdu. Malgré le désir pressant d'un repas chaud et d'un lit douillet, le vieil homme décida de camper là où il était. Alors qu'il brûlait d'envie de raconter son aventure à ses amis et de boire une bonne bière, il se résigna à passer une nuit solitaire dans la forêt.
« Dans une aventure, tout ne peut pas être agréable, » dit-il à voix haute pour se consoler.
À la lisière d'une clairière, il s'installa au pied d'un orme et utilisa son paquetage comme oreiller. Une fois installé, bien protégé par les branches, il fit le point sur son problème de don et repensa à la mésaventure en chemin que lui avait valu un sortilège d'air pourtant très simple. Malgré cette déconvenue, il regarda le tas de petits bois qu'il avait constitué et songea que l'embraser avec le pouvoir, naguère, ne lui aurait coûté aucun effort. Avec un morceau d'acier et un silex, il n'avait jamais été très doué. Un manque de compétence et de patience. Quand Nathan Rall avait besoin d'une étincelle, il claquait des doigts et on n'en parlait plus. Accablé, il mangea froid, puis s'enveloppa dans sa cape marron, un cadeau des villageois de Rendabay, pour ne pas crever de froid. La chemise du pauvre Philippe contribuant à le garder au chaud, il sombra dans un sommeil agité. Levé dès l'aube, le vieux sorcier se fraya un chemin dans les broussailles et retrouva assez vite la piste. Enfin une raison d'être content de lui. Désormais, il allait pouvoir rattraper Nietzsche et Bannon. À Lockridge, probablement, une ville qui devait être à une ou deux lieues de sa position. En fin de matinée, il tomba sur la première ferme abandonnée. Après avoir bu à un puits, certain que personne ne lui en voudrait, il chassa deux chèvres en quête d'affection et n'accorda pas beaucoup d'intérêt aux statues. Hideuses, ces sculptures ne paraissaient pas à leur place, mais en 1000 ans, Nathan avait vu des choses bien plus bizarres, d'autant qu'en matière d'art, tous les goûts étaient, hélas, dans la nature. Suivant toujours la piste devenue une route, le vieil homme passa devant d'autres fermes et habitations diverses, toutes abandonnées et ornées d'abominables statues. Les œuvres d'un prince local qui se prenait pour un artiste et forçait ses sujets à lui acheter sa piteuse production. Vers midi, Nathan entra en ville. Un très gros village, plutôt, avec tout ce qu'on pouvait en attendre. Des maisons, des boutiques, une esplanade, une écurie, une auberge, un forgeron, un potier et un charpentier. Il ne manquait que les habitants, remplacés par des centaines de statues toutes plus hideuses les unes que les autres. Dubitatif, Nathan avança sur la pointe des pieds comme s'il craignait de réveiller les grotesques sculptures. Ici, il se sentait comme un intrus. Dans des circonstances normales, il aurait dû détecter sans peine le danger ou capter des vestiges de magie. Plongeant en lui-même, il localisa ce qui restait de son don après l'amputation de ses aptitudes de prophète. Son Han étant toujours hostile et tumultueux, il préféra ne pas le solliciter. Un autre jour, il aurait appelé ses amis, mais le silence à Lockridge lui parut encore plus oppressant que dans la tour aux vitres en versant. Leur désespoir et leur terreur lui donnant la chair de poule, il ne s'attarda pas sur les statues, mais remarqua pourtant qu'elles représentaient toutes sortes de gens, des marchands, des fermiers, des lavandières, des gamins. Sur l'esplanade centrale, deux sculptures attirèrent son attention. Très propres et d'une blancheur éclatante, elles devaient être les dernières créations de l'artiste dément. L'air révulsé de la statue faillit d'abord l'abuser. Mais Nathan reconnut Bannon. Près de lui se trouvait Nietzsche, la superbe magicienne dont les courbes et la jolie robe auraient inspiré plus d'un maître du burin. Moins affligés que ceux des autres statues, les traits de la jeune femme exprimaient cependant une poignante douleur, comme si ses regrets et ses remords avaient explosé, l'accriblant de minuscules échardes. Nathan en eut les sangs glacés. Une magie terrifiante était à l'œuvre dans cette ville. Et même s'il ne connaissait aucun sort susceptible de pétrifier ainsi les gens, le sorcier aurait mis sa tête à couper qu'il n'était pas devant des statues, mais face à ses amis très récemment métamorphosés. Une voix grave et puissante brisa soudain le silence.
« Es-tu innocent, étranger? Où viens-tu pour être jugé comme les autres ?»
Un grand type en tunique noire, un diadème sur son crâne oblongue, approcha de Nathan. Sur son torse dévoilé par sa tunique ouverte, des cicatrices boursouflées entouraient une amulette en or.
« J'ai vécu 1000 ans !»
répondit Nathan sur ses gardes.
« Rester pur et innocent tout ce temps n'est pas facile !»«
Injuste doit y parvenir !»«
Je ne suis pas non plus rongé par la culpabilité !»
En un éclair, Nathan comprit que le type chauve, un collègue à lui, avait mis au point un sort qui transformait les gens en pierre. Nietzsche et Bannon comptaient parmi ses victimes.
« Je suis un voyageur et un émissaire de l'Empire d'Aran, son ambassadeur itinérant en fait. »«
Moi, je suis le juge suprême. »
Quand le sorcier chauve avança, le grenat de son amulette brilla intensément. En possession de tous ses moyens, Nathan aurait attaqué, mais avec quelle magie frapper? Conscient qu'il lui restait son épée, il voulut la dégainer. Son bras bougea très lentement, comme si... Sentant soudain que ses jambes pesaient des tonnes, Nathan comprit ce qui lui arrivait.
« Seuls les innocents peuvent passer, » dit le juge suprême, ses yeux bleus clairs rivés sur sa proie. « Je vais découvrir de quoi tu es capable, vieil homme. » « Tout est péché, oui. »
Nietzsche était coincé dans un corridor où les pires moments de sa vie se répétaient à l'infini. Ses pires crimes, plutôt, figés pour l'éternité. La noirceur de la maîtresse de la mort, par ailleurs servante du gardien. Un poids moral qui aurait dû l'écraser plus sûrement que des tonnes de pierre. Au service de Jagang, elle avait tué et torturé plus souvent qu'à son tour. Convaincue d'œuvrer pour le bien de l'humanité, elle avait aidé l'ordre impérial qui prétendait lutter pour l'égalité de tous, le bien-être des pauvres et des infirmes et le châtiment des profiteurs dont les richesses devaient être redistribuées. Ayant été sincère dans son aveuglement, elle n'éprouvait aucune culpabilité vis-à-vis de tout ça. Dans un passé plus lointain, elle avait regretté d'avoir manqué les funérailles de son père. Mais les Sœurs de la Lumière ne l'avaient pas autorisée à quitter le palais des prophètes. Son père, brillant fabricant d'armures et très bon entrepreneur, aujourd'hui elle le reconnaissait, avait bénéficié de la confiance de ses clients jusqu'à ce que l'ordre impérial le pousse à la ruine. Jeune fille engagée, conditionnée à la dure par sa mère, elle avait participé à cette cabale. En ces temps-là, la foi au cœur, elle croyait combattre pour une juste cause. Quand on se trompait d'objectif en toute candeur, devait-on se sentir coupable? Enfermée au palais des prophètes pendant des années, elle avait aussi raté la mort de sa mère abusive, mais pas son enterrement, même si elle n'avait jamais culpabilisé au sujet de ce décès. Pour se procurer une belle robe de deuil, elle s'était donnée à un tailleur répugnant. Mais c'était le prix, et elle avait accepté de le payer. Faire ce qui s'imposait n'était pas criminel, et depuis, elle portait presque en permanence une robe noire. Dans cette cataracte de souvenirs sombres, Nietzsche en distingua un qui l'incitait à battre sa culpe. Avoir enlevé Richard à l'amour de Callan pour le conduire à Alterrang et le forcer à mener avec elle une caricature de vie de couple. Même si elle avait agi ainsi pour gagner Richard à sa cause, c'était un acte difficilement pardonnable. En cours de route, elle était tombée amoureuse du sourcier. Un sentiment tordu et incomplet qu'elle ne comprenait pas elle-même. Son pire péché peut-être, elle l'avait commis après que Richard eût refusé de faire l'amour avec elle. Folle de rage, elle avait racolé le premier type venu, le laissant la traiter comme une chienne avant de la frapper et de la violer. Un viol? Pas vraiment, puisqu'elle avait poussé l'homme à agir ainsi. Tout ça parce qu'elle savait que Callan, via le sort de maternité qui les liait, éprouverait dans sa chair tout ce qu'elle infligeait à la sienne et croirait que Richard l'avait trompée, prenant son plaisir comme un animal sur le corps de sa rivale. Combien Callan avait dû souffrir, et combien Nietzsche s'en était réjoui. De cette bassesse, elle s'était sentie coupable. Mais elle avait depuis longtemps tourné la page. Comme Richard, Callan lui avait pardonné. Et si elle ne pouvait pas nier avoir été une femme abominable, la tristement célèbre maîtresse de la mort, elle avait changé. Peu encline à se vautrer dans son passé, elle ne se laissait pas non plus hanter par les spectres de ses méfaits. Alliée à Richard, elle s'était battue pour lui, l'aidant à renverser l'ordre impérial, puis elle avait ordonné à Jagang de mourir. D'une loyauté inaltérable, elle avait massacré par centaines les demi-humains cannibales qui dévastaient les terres noires. Toujours pour Richard et sans jamais faiblir. Puis elle était même allée jusqu'à arrêter son cœur afin qu'il puisse ramener Callan du royaume des morts. À cet homme, elle avait tout donné, sauf sa culpabilité. Parce qu'elle n'en éprouvait pas. Même en commettant ses actes les plus affreux, elle n'avait rien ressenti. Dans sa nouvelle vie, un voyage dont elle ignorait la destination finale, elle servait une cause plus noble que jamais. Pas seulement celle de Richard, mais celle de son rêve, la liberté et le bonheur pour tous. Dans cette quête, la culpabilité n'avait aucune place. Nietzsche était une magicienne dotée du pouvoir de tous les sorciers qu'elle avait tués. En plus, elle disposait des sorts appris auprès des sœurs des deux obédiences. Dans son âme se tapissait une force qui dominait de loin la mission auto-attribuée d'un juge suprême de carnaval. Elle contrôlait la magie et il ne revenait pas à ce bouffon de lui infliger un châtiment. Pétrifiée, l'esprit coincé dans un purgatoire étouffant, elle restait telle qu'en elle-même. Une femme dont le cœur était déjà de pierre avant tout ça, et dont les émotions se révélaient plus froides que de la glace. Sa protection ultime. Une force qu'elle invoqua en mobilisant la magie qui lui restait. Parce que, indomptable depuis toujours, elle entendait bien une fois de plus ne pas se plier à une sentence qu'elle n'avait pas prononcée elle-même. En harmonie avec sa fureur, sa magie s'embrasa. Elle n'était pas une minable voleuse ni une meurtrière d'enfants débiles, mais une magicienne. Et la maîtresse de la mort. À l'intérieur comme à l'extérieur, Nietzsche sentit que le marbre se fissurait. Le juge suprême, plus sinistre que jamais, ne semblait prendre aucun plaisir pendant qu'il lançait son sort en expliquant à Nathan les tenants et les aboutissants de ses actes. Tous les gens sont coupables, c'est ça le problème. J'ai tant de travail. Nathan lutta pour bouger un bras.
Arrête ça!
La main du vieil homme n'était pas loin de son épée. Mais même s'il touchait la poignée, ça ne suffirait pas. Le sort de pétrification l'enveloppait, tous ses tissus se fossilisant à une vitesse folle. Alors que le temps désertait son corps, comment aurait-il pu résister ou fuir? Son seul recours aurait dû être la magie, un sortilège capable de riposter à l'assaut du juge suprême et de le déstabiliser assez pour qu'il cesse de lancer le sien. Mais quand on était incapable d'allumer un feu de camp, comment combattre un adversaire si puissant? Même s'il avait pu invoquer son imprévisible don, à quoi ça aurait servi puisqu'il ne le contrôlait pas? Arenda Surbay, alors qu'il tentait de guérir un homme, il l'avait déchiqueté de l'intérieur avec ce qui aurait dû être une magie thérapeutique. Désireux d'aider un blessé, il avait au contraire... Était-ce ce moment d'atroce culpabilité que le juge suprême le condamnerait à revivre jusqu'à la fin des temps? Un crissement retentit quand le sort pétrifia la sacoche de Nathan et le livre de vie qu'elle contenait. Presque incapable de respirer, le vieil homme sentit sa magie se tortiller comme un reptile qui veut se libérer. Que se passerait-il s'il la laissait faire? Quelle catastrophe pouvait être pire que le sort qui le menaçait? Nietzsche aussi était pétrifié, et le pauvre Bannon avait subi le même sort. Pour résumer, Nathan n'avait rien à perdre. Quel que soit l'effet incongru qu'aurait sa magie, frapper avec elle, même maladroitement, lui laisserait l'ombre d'une chance. Bien qu'écrasé par le poids de la pierre et de la culpabilité, le vieil homme parvint à murmurer quelques mots.
« Je suis Nathan, Nathan le prophète, non, Nathan le sorcier. »
La magie jaillit de lui comme une anguille qui sort d'une niche rocheuse sous-marine. Nathan ne fit rien pour la contenir. Advienne que pourra. En lui, une sorte de grésillement retentit. Un moment, il redouta d'imploser sous la pression, son crâne éclatant comme une noix. Devant lui, la statue de Nietzsche changeait. Comme une coquille d'œuf, le marbre se craquelait. Nathan aurait juré qu'il n'y était pour rien. Sa magie, pour le moment, se contentait d'éclabousser le juge suprême, on eût dit les projections d'une casserole d'huile en train de chauffer. Le sorcier chauve recula en titubant.
« Que fais-tu donc ?»
Levant une main, il posa l'autre sur son amulette.
« Non !»
Le sort de pétrification glissait sur Nathan comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Puis il se mêla à sa magie et par ricochet venait attaquer le juge suprême. Le sorcier dément en trembla d'horreur. Sa bouche se tordit de dégoût et un ignoble désespoir s'afficha sur son visage. Ses yeux virèrent au blanc comme sa tunique déjà rigide.
« Je suis le juge suprême » cria-t-il. « Celui qui voit la culpabilité rend la justice !»
Dans un concert de craquements, Nietzsche sortit de sa gangue de marbre en utilisant son propre pouvoir, constata Nathan. Et il s'avisa en même temps que sa vision s'éclaircissait à mesure que le marbre coulait hors de lui. Sa chair redevenue souple, le sang recommença à circuler dans ses veines. Autour du juge suprême, le sortilège incontrôlable se déchaînait. Hurlant de terreur, le sorcier chauve continuait à se pétrifier.
« Tu es coupable !»
lui dit Nathan dès qu'il put parler.
« Ton crime, c'est d'avoir jugé tous ces pauvres gens !»
Au-dessus des yeux écarquillés du juge suprême, les paupières se figèrent pour l'éternité.
« Non !»
Pas une négation, mais bien une prise de conscience.
« Qu'ai-je fait ?»
croassa le sorcier fou, sa voix de moins en moins forte, alors que l'étau du marbre lui enserrait la poitrine.
« Tous ces malheureux !»
Ses traits exprimant une honte au-delà de l'imaginable, le juge suprême lâcha un ultime nom avant de devenir la nouvelle et dernière statue de Lockridge. Alors qu'il la contemplait, Nathan sentit son erratique magie se dissiper. En un clin d'œil, elle ne fut plus là, tout simplement. La vie, en revanche, était revenue en lui, et ça, c'était bien agréable.